session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jodard le 3 juillet 1991.
Je reviens quelques minutes sur ce que je vous disais tout à l'heure en terminant pour répondre à cette question. Elle est importante, alors il faut bien y réfléchir. Si on part donc au plan théologie naturelle, si on part de l'hypothèse de l'existence de Dieu, n'est-il pas normal de le trouver à la fin, c'est-à-dire de la trouver à la fin, l'existence de Dieu? N'y a-t-il pas là pétition de principe? Quelle différence y a-t-il entre un regard critique et une recherche philosophique? Je crois que ça vaut la peine d'y revenir et de bien y réfléchir parce que c'est important. Une hypothèse en philosophie comme en science, ça provient d'une certaine interrogation, souvent d'une certaine intuition. C'est comme quand on devance. L'hypothèse, c'est devancer. On devance une conclusion. Une conclusion scientifique s'appuie sur des principes, sur une loi. Et la conclusion est quelque chose de certain. Cela existe. Tandis qu'au contraire, l'hypothèse demeure quelque chose qu'on ne sait pas si ça existe ou ça n'existe pas. Donc c'est de l'ordre du possible. J'ai parfaitement le droit, surtout si je suis en présence des traditions religieuses, parce que les traditions religieuses affirment selon un mode symbolique, quelquefois mythique, l'existence d'un être premier, d'un créateur. Au plan philosophique, les traditions religieuses restent des hypothèses, des opinions, pas plus. Je ne sais pas si c'est vrai. Quand un philosophe lit le début de la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre, ces deux hypothèses, ces deux récits de la création qui ne sont pas du tout les mêmes, un esprit critique dirait, voyez bien que ça ne tient pas, puisqu'on donne deux récits différents. Donc ça prouve que ce n'est pas juste tout. Alors on pourrait dire à l'esprit critique, il y a deux, ordinairement, on peut monter en haut d'une montagne, par un côté est ou ouest, nord ou sud. Et ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Et les deux récits nous montrent quelque chose de particulier. Mais évidemment, je comprends très bien que pour un philosophe, le récit de la Genèse n'est qu'une hypothèse. Sympathique, une hypothèse belle, un anthropomorphisme très fort. On divise le début de la Genèse par un jour, deux jours, trois jours. Vous voyez, c'est plus agréable que le Big Bang. Il y a quelque chose de plus poétique, un peu plus poétique. Parce que le Big Bang, c'est une hypothèse. C'est pas scientifique. parfaitement le droit de poser des hypothèses. Le tout, c'est dire ces hypothèses sont des hypothèses. Et je peux engager ma vie sur une hypothèse, quand je n'ai rien d'autre. Paris de Pascal. Si Dieu existe vraiment, ben il vaut mieux y croire. Si Dieu n'existe pas, après tout, ça me permet d'être plus homme, de chercher quelque chose qui me dépasse, c'est pas si mal. Donc, pratiquement, faisons comme si Dieu existe. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont comme ça, hélas. Ils ont un petit peu perdu ce que c'était que la foi. Ils ont un peu perdu ce que ça représentait, la réalité, et ils confondent le possible et le réel. Et pas de l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'ontologisme. On passe du possible au réel. Si un possible se présente à nous, il est réel. Alors, pour nous, le possible n'est pas le réel. De sorte que l'hypothèse ne contient pas en elle-même l'affirmation « Dieu existe ». Vous pouvez mettre toutes les hypothèses possibles, ça reste toujours dans le possible, et ça ne touche pas l'existant. Tandis qu'au contraire, au terme, comme nous le verrons, nous affirmons « Dieu existe ». Il est nécessaire d'affirmer ça. Et si je ne l'affirme pas, je suis obligé de reconnaître que plus rien n'est intelligible. Et vraiment intelligible. Or, l'intelligible existe. Donc Dieu existe. Hein, voyez comment on peut le dire scientifiquement. Donc, comprenons bien, l'hypothèse est simplement comme une grande interrogation. Pour orienter mon intelligence, est-ce que Dieu existe? Donc il n'y a pas pétition de principe. C'est le second point sur lequel j'étais très rapidement. Quelle différence y a-t-il entre un regard critique et une recherche philosophique? Je vous ai dit tout à l'heure que les cinq voies de saint Thomas, c'est un regard critique. Et ce que nous allons faire, nous, est un regard philosophique. Donc, j'espère que vous allez comprendre la différence entre les deux. Et c'est important de comprendre la différence entre les deux. Parce que la philosophie n'est pas premièrement critique. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne critique que quelque chose qui est avant la critique. On ne peut pas critiquer la critique. La critique est incritiquable parce qu'elle est critique. Et vous voyez pourquoi. La critique, c'est l'intelligence qui réfléchit sur une connaissance pour savoir si cette connaissance est raisonnable, acceptable, évidente. Tandis faire la critique de la critique, ça voudrait dire que la critique n'est plus la critique. Parce que si je critique quelque chose, c'est justement pour montrer que c'est évident, que c'est certain, que c'est raisonnable. Tout dépendra de la note que je mettrai au terme. Il n'y a plus rien à faire après. Je ne vais pas faire la réflexion, on ne peut pas aller à l'infini. L'intelligence a ce privilège d'être directe, liée avec les sens externes, et d'avoir la capacité de se réfléchir. Il y a deux parties réflexives de la philosophie. Je ne les ai pas montrées l'autre jour, je les ajoute tout de suite. Il y a deux parties réflexives de la philosophie. La critique et la logique. La critique réfléchit sur la manière, le comment de connaissance intellectuelle, de ma connaissance affective, de ma connaissance poétique, de ma connaissance scientifique, de ma connaissance mathématique. J'essaie de préciser qu'est-ce que le mathématicien saisit comme matheux. Qu'est-ce que le physicien saisit comme physicien? Qu'est-ce que le biologiste saisit comme biologiste? Je vous donne un petit exemple. Il y a quelques années, ça m'a beaucoup frappé, c'est pour ça que je vous le dis, et c'est éclairant. J'allais régulièrement au foyer de charité de Poissy, où il y avait une réunion des grands amis du père Eberhard, père de foyer de charité. Et ses amis étaient devenus mes amis. Il y avait une trentaine de messieurs, polytechniciens, PDG, des gros. Vraiment des hommes importants et qui savaient leur importance. C'est toujours important. Et on traitait tel ou tel sujet. Et c'était venu à la demande d'un de ceux-là qui m'avait dit, est-ce que c'est suffisant quand on est à la tête d'une entreprise, de dire mon entreprise marche bien. On peut facilement survivre, et non seulement survivre, mais progresser. Est-ce que le critère d'efficacité suffit pour un PDG chrétien? Et il m'a dit à ce moment-là, j'ai consulté un théologien que je ne nomme pas, qui m'a dit, c'est parfait. Continuez. C'était PDG de Farge Ciment. Grosse boîte. Et lui, dans sa conscience de PDG, avait dit ça au père Eberhard. Le père avait dit, demandez ça au père Philippe. C'est une question de théologie, demandez-lui ça. Il m'a posé la question, j'ai dit non, c'est pas suffisant. Si vous êtes chrétien, c'est pas suffisant. Parce que vous êtes responsable des hommes que vous embauchez. Il y a un contrat de travail, c'est très bien, mais il faut savoir si ces hommes peuvent vivre, s'ils sont pères de famille, s'ils ont des difficultés. Vous devez vous intéresser à l'homme. Et pas seulement au travail. Parce qu'on ne vend pas le travail. Le travail reste lié à l'homme. Alors il me dit, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je dis, si vous comprenez un très grave problème au point de vue humain, les rapports entre le fat chéré, la réalisation, le travail, qui réclame l'efficacité. On doit voir le fruit du travail. Et puis l'aspect moral, l'aspect éthique de l'homme. Un PDG chrétien, il doit avoir un sens de sa responsabilité. Il ne peut pas l'être comme quelqu'un qui n'a aucune religion, aucune foi. Il y a un retentissement sur tout son gouvernement. Alors il m'a dit, là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faudrait nous expliquer ça. Est-ce que vous ne pourriez pas nous faire des cours de théologie là-dessus? Alors je dis non, je vous ferai d'abord des cours de philosophie. Alors, il me dit pourquoi? On n'est pas philosophe du tout. Oui, mais vous devez être des gens intelligents. Si vous êtes des gens intelligents, vous réfléchirez. C'est ça que j'appelle faire de la philosophie, moi. C'est être intelligent. Éveiller notre intelligence sur le problème de l'homme, dans toutes ses dimensions. Et réfléchir sur l'homme. Et puis, on verra ensuite le problème chrétien. Alors, on a commencé à faire des réunions sur les rapports entre l'aspect du fat chéré, la réalisation artistique, la réalisation du travail humain. Et puis, l'aspect de l'éthique, personnelle et communautaire. Et un beau jour, il y a eu un professeur de biologie, plus exactement un professeur de la faculté de médecine, des grands spécialistes biologistes, qui est venu. C'était très intéressant. C'était un jour où je faisais un petit exposé sur le mâle. C'est un sujet brûlant et difficile. Qu'est-ce que c'est que la souffrance? Qu'est-ce que c'est que le mâle? Comment essayer de le comprendre? Je ne le connaissais pas. Après, on est devenus de très bons amis. Alors, après ces exposés, je leur demandais, est-ce que vous avez des questions? Ils en avaient toujours, forcément. Des polytechniciens, ça ne peut pas être autrement. Ils avaient toujours des tas de questions. Et puis, après que j'ai posé les questions, j'ai vu cette tête nouvelle. J'ai su après qui il était. Me dire, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, je suis professeur à la faculté de médecine, biologiste. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous avez dit, c'est qu'au fond, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est même très étonnant. J'étais invité par Paul VI au Concile. J'étais le seul savant. J'ai essayé d'avoir des dialogues avec les théologiens. J'ai pas pu. Parce qu'ils se réfugiaient toujours sur leur conscience. C'est un aspect subjectif. Oui, on le retrouve. Et je voulais avoir un aspect objectif. Ce qui m'a intéressé dans votre exposé, mais c'était objectif. Comment ça se fait? Alors je dis, c'est pas étonnant, parce qu'aujourd'hui, des quantités de théologiens n'ont plus assez de philosophie. Et alors partent dans une perspective beaucoup plus phénoménologique, du vécu, de la conscience. Alors je comprends très bien que vous, en tant que savant, vous n'avez pas pu avoir de dialogue avec eux. Elle me dit, c'est curieux, j'assiste à un de vos cours, je suis parfaitement d'accord. Et je sens que ce serait intéressant de travailler ensemble. Je dis, sûrement, je ne demande pas mieux. Alors on l'avait invité à montrer un cours qu'il aimait, une grande conférence qui a duré 3 heures, sur la politique de la vie au niveau science biologique. Un résumé, une conclusion. En tant que biologiste, après toutes ces études, il travaille tout le temps. Oui, il m'intéresse beaucoup parce que de temps en temps, je vais prendre un repas du soir chez lui et puis je lui demande tout de suite les dernières découvertes. Alors en 1 heure, 2 heures, on est au courant des choses essentielles, c'est toujours très important. C'est un homme qui réfléchit beaucoup. Il s'occupe beaucoup des mutations génétiques, de tout ce que représente tout ce problème génétique d'aujourd'hui. Alors il a exposé la politique de la vie pendant 3 heures. C'était palpitant. Extraordinairement intéressant. Puis alors après, il y a eu le repas. Heureusement, parce que 3 heures après, ça aurait été difficile de prendre la 4e heure, ça a été fatigué. Puis après le repas, c'était entendu. Père Philippe, au plan philosophique, dites-nous ce que c'est que la vie. J'ai dit, je ne parlerai pas 3 heures. Mais j'essaierai de vous faire comprendre. Alors j'ai commencé tout de suite de cette façon. Tout ce que le professeur Marois vous a dit, il l'a dit en raison de l'expérience, de l'expérimentation, en se servant du microscope électronique. Pourquoi le philosophe qui veut saisir la vie ne se sert pas du microscope électronique? J'ai dit, mais j'en ai pas besoin, Je ne veux pas m'en servir. Alors, je ne peux pas vous donner tous les détails qu'il a donnés. Mais je vous donnerai autre chose. Et vous verrez la différence. Parce que le microscope électronique ne saisit pas le vivant. Il saisit tel organe du vivant. Et c'est pas la même chose. Il pousse, je sais pas combien ça grossit, mais c'est affolant. De sorte qu'il voit n'est plus la réalité telle qu'elle est, mais ce qui dans la réalité peut être grossi. Alors tout ne peut pas être grossi dans la réalité. La qualité est indivisible. Elle échappe à cet instrument merveilleux, étonnant, mais elle échappe. De sorte qu'il y a un déséquilibre entre la qualité et la quantité qui s'établit également dans l'ordinateur. Il y a une disproportion qui se fait entre la qualité et la quantité. De sorte que c'est très intéressant et très important pour pouvoir intervenir. C'est très vrai. On voit des choses qu'on ne voyait pas autrement. Mais attention, attention. Parce que la qualité dominante du vivant, c'est de mettre dans la multiplicité une unité. Et surtout quand il s'agit de l'homme. Alors, j'aurais dit, le philosophe, lui, s'intéresse à un seul animal. L'homme. Parce que je ne suis pas dans le chien pour voir ce que le chien pense quand il aboie. Pense ou ne pense pas. Quand il aboie. Dans le serpent non plus. Dans la girafe non plus. Or, quand il s'agit de la vie, l'homme a une situation privilégiée pour saisir le vivant. Il le saisit de l'intérieur. Quand je pense, c'est quand même ma vie. Quand j'aime, c'est quand même ma vie. Quand je pose un acte volontaire, j'en suis conscient. Quand je parle, quand j'agis, je travaille, et ainsi de suite. Ah, évidemment, quand je digère, je ne suis pas très conscient. Je peux avoir mal. Et je me dis, pourquoi j'ai mal, j'ai pris tel aliment particulier, la cuisine a été mal faite, oh, je vois très bien. Enfin, j'analyse l'aliment qui a peut-être occasionné ce mal d'estomac. Quand j'ai mal à la tête, je suis à l'extérieur. Autrement, je chasserai tout de suite ce mal de tête. J'essaie d'agir indirectement, en y pensant le moins possible. Et en me concentrant sur ma dent malade. Et alors à ce moment-là, je n'ai plus mal à la tête. Bon. J'ai un autre mal, tout simplement. Pour bien montrer que, justement, cette conscience, je peux modifier. Et ça, c'est vrai. Je peux modifier mon mal de telle ou telle manière. Donc, si je me servais d'un microscope électronique, je ne pourrais absolument pas saisir ce qu'il prend du vivant, se mouvoir de l'intérieur. J'analyserai une matière vivante, mais je n'analyserai pas la vie. Et surtout, je ne saisirai pas l'homme vivant dans sa complexité et ses degrés. progressivement. Et puis surtout, quand le philosophe étudie ce que c'est que l'homme, il essaie de découvrir ce qu'il y a de particulier dans l'homme, l'âme. La science biologique, si poussée qu'elle voit pas, ne saisira jamais l'âme. Or, je crois que c'est quand même la chose capitale. J'avais envie de dire, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Vous voyez, la philosophie à côté de la biologie, c'est le plus petit. Mais, vous voyez ce que ça veut dire, hein, le plus petit, qui emploie des armes légères, l'attention, la conscience que j'ai. Je ne méprise pas du tout les analyses biologiques, surtout que ce cher professeur était là. Je ne méprise absolument pas les analyses biologiques, mais je dis qu'elles sont incomplètes. Elles regardent la matière vivante. Elles ne regardent pas le vivant, l'homme vivant. C'est quand même important, ça, comme petite différence. Et tout l'aspect spirituel, tout l'aspect des passions, alors évidemment, ça, on se rejette sur un autre, le psychologue. Mais je dirais la même chose pour le psychologue. Il étudie tel comportement. Il n'étudie pas l'homme. Il, lui, vit ses comportements. C'est pas la même chose. Parce qu'il ne vit jamais un comportement isolé. Elle fait partie toujours d'un ensemble. Là, on voit bien la différence, vous voyez, entre une connaissance philosophique qui regarde autant qu'elle le peut la réalité, sachant très bien que sa connaissance philosophique n'est pas adéquate au réel. Ce qui est dangereux dans la science d'aujourd'hui, c'est qu'on croit, pas le grand savant, mais le bon public, c'est qu'on croit que les conclusions scientifiques représentent le réel. Et les conclusions scientifiques ne représentent qu'un aspect du réel. Un point particulier, celui qu'on a pu grossir avec le microscope électronique. Et si vous donnez ce résultat comme étant ce qu'est la réalité, vous faussez tout. Et c'est pas commode d'avoir cette conclusion scientifique et de regarder qu'est-ce que c'est que la réalité. Là, vous avez besoin du philosophe. Voyez la critique. C'est de montrer le hiatus qui existe entre le réel et ce que je connais du réel. Ce que je connais du réel n'est jamais adéquat au réel. C'est tout le problème de la vérité. Il y a toujours une différence. Dès que je connais quelque chose, je l'abstrais. Il y a ce fameux problème de l'abstraction. Blanc, blancheur. L'homme religieux, la religion. Le concret et l'abstrait. Toutes mes connaissances scientifiques sont abstraites. Toutes mes connaissances philosophiques sont abstraites. Mais le philosophe sait que c'est abstrait. Le philosophe essaie par tous les moyens de rejoindre le réel concret, l'homme concret, l'individu. Par tous les moyens. Il sait qu'il ne le fera jamais parfaitement. Mais il sait qu'en aimant l'homme, il est beaucoup plus concret qu'en le connaissant. la connaissance se particularise toujours. Elle se particularise toujours. Alors que l'amour se porte sur la totalité de la personne. Alors évidemment, l'amour n'est pas la connaissance. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça fait quand même partie de l'homme. La connaissance n'est pas tout l'homme. Dans ma vie, il y a la connaissance et l'amour. Si je prétends connaître l'homme, il faut l'amour et la connaissance. Et l'amour a une répercussion sur tout. Vous savez bien, les très bons médecins le disent toujours. Le moral d'un malade, c'est capital. C'est très très important le moral d'un malade. Le moral d'un malade, ça relève pas de la connaissance. Ça relève de son amour. Le moral est bon parce qu'un ami est venu le voir, parce que sa mère est venue, parce que s'il est